l'occasion de la journée de la pensée joyeuse, organisée dans le cadre du temps fort Vivant-Vivante, Radio Alpa et les Quinconces et l'Espal vous proposent une émission spéciale présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes en direct de l'Espal à l'occasion de la journée de la pensée joyeuse, un événement organisé dans le cadre du temps fort Vivant-Vivante par les Quinconces et l'Espal depuis le 16 avril et jusqu'au 9 juin. Et c'est une émission en partenariat avec les Quinconces et l'Espal que nous vous proposons. Alors qu'est-ce que c'est Vivant-Vivante ? C'est un temps fort autour de l'écologie, de notre rapport au vivant pendant plusieurs semaines pour nous questionner et ouvrir le champ des réflexions à ce sujet au travers donc de différentes créations, spectacles, expositions mais tant de rencontres également. Et il y a donc la journée de la pensée joyeuse ce 25 mai. C'est une journée pivot, comme on pourrait dire, où le public peut assister à des créations et temps d'échange avec des associations et des artistes. Alors au programme de cette heure passée ensemble, nous parlerons d'une création de Sophie Berger et Fabrice Melchior, présentée en début de soirée, chouchoutée tous en cœur, une performance poétique réalisée à partir d'ateliers d'écriture, de paroles et de prises de son. Et puis nous parlerons aussi d'art visuel avec Lydie Jandy-Panel, qui présente son exposition Vivante, c'est depuis le 16 avril. Et elle sera avec nous dans quelques instants, puis elle présente aussi aujourd'hui le mix des oiseaux, c'est un projet mené avec Gauthier Tassard. Et enfin, l'un des points forts de cette journée de rencontre, c'est le temps d'échange avec l'association Jalmalve, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Françoise Thibault, médecin en soins palliatifs et présidente d'honneur de Jalmalve, viendra échanger avec le public. Et la comédienne et chanteuse Hélène Gratté, qui présente le spectacle L'équilibriste, participe aussi à ce temps d'échange. Voilà, elles seront avec nous en dernière partie d'émission. Voilà pour les principaux sujets qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble. Pour démarrer cette émission, je suis avec deux invités, Virginie Bocard, directrice des Quinconces et l'Espal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Sophie Berger, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez donc la création Chouchouter tous en cœur avec Fabrice Melchior. Alors vous êtes avec nous en début d'émission parce que justement on doit vous libérer après, vous avez les derniers préparatifs. D'abord une question pour vous Virginie Bocard. Pour commencer, on a présenté rapidement le programme de cette journée de la pensée joyeuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'enjeu et l'objectif d'avoir créé un temps fort qui nous questionne sur notre rapport au vivant, à la planète ? Il y a eu plusieurs éditions les années précédentes.
Oui, c'est la troisième édition et comme vous le dites très bien, c'est pouvoir à travers une programmation à la fois en théâtre, en danse, en musique. Hier, on a accueilli Anne Passeo et son spectacle Chaman. Cette création participative dont Sophie va vous parler, c'est... De mettre au plateau, en tout cas de poser la question de nos relations entre les êtres vivants, vivant sur cette terre. Donc c'est des questions écologiques, bien évidemment, et c'est de pouvoir laisser place à des œuvres, à des artistes qui s'emparent de ces sujets, et puis travailler aussi avec des forces vives du territoire. Vous parliez de l'association Jalmalve, puisque... La question entre notre vie sur Terre, c'est aussi la question de la mort. Et donc, inviter des associations, des forces vives de cette ville pour en être le témoin et être tous ensemble autour de ces sujets.
Justement, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est une volonté des Quinconces et l'Espal de rassembler cette thématique, ces différentes créations, sous forme de temps fort au printemps, justement, parce qu'il est un peu plus long que les années précédentes, ce temps fort.
Il dure trois semaines. Il est aussi en écho avec les inspirantes qui ont lieu... en janvier. Et donc c'est vrai que sur le projet artistique que nous défendons ici et sur la programmation, en tout cas même au-delà de la programmation, hein, puisque c'est un axe fort, c'est aussi des rencontres, c'est comment aussi des personnes de cette ville vont être aussi contributrices sur un contenu. C'est effectivement être ensemble et en mijoter, se concerter sur des sujets qui sont des sujets de société, des sujets civilisationnels. Et en tout cas, c'est le projet que je porte et qui se décline effectivement sur un temps assez long, puisque c'est pas un festival, c'est un temps long, ce sont des cycles. C'est comme ça que le projet est construit.
Sophie Berger, je me tourne vers vous. Vous présentez donc avec Fabrice Melchior et Cosmo Gamma une création que le public va pouvoir découvrir, réalisée à partir d'ateliers d'écriture, de paroles, mais aussi de prises de son. Ça s'appelle « Chouchouter tout son cœur ». Déjà, Sophie Berger, quelle est l'intention de cette création ?
Le projet, c'est d'abord un projet d'écoute, c'est-à-dire que la proposition, elle est simple. Elle est celle de réunir un groupe de 15 personnes de tous âges et de les faire se rencontrer. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans et puis des gens plus âgés, 60, 70, 80. On a quelqu'un de 87 ans dans le groupe. Et ces gens, toutes ces personnes se rencontrent le lundi soir de 18h à 21h. Et tous les soirs, nous organisons ensemble un moment de rencontre, d'échange, d'écriture, autour d'ateliers d'écriture, pour construire une performance que nous présentons ce soir à 18h au Quinconce L'Espale, à L'Espale. Et l'idée, c'est simplement de se dire qu'est-ce qui se passe quand des gens de différentes générations se rencontrent. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Des gens qui ne se connaissent pas, qui ont des vécus très différents. Qu'est-ce qui se passe ?
Ces ateliers d'écriture, de prise de son, d'échange de paroles, comment est-ce qu'ils se déroulent ? Qu'est-ce qui est mis en avant ? Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets qui en ressortent plus que d'autres ?
Les sujets, c'est finalement le soin. C'est-à-dire, l'idée, c'est chouchouter tout son cœur. C'est quelle attention nous accordons à l'autre, prendre soin des autres, prendre soin de soi, peut-être prendre soin de soi en prenant soin des autres. Et c'est au final ce qui ressort, sans dévoiler trop la création et la performance de ce soir. C'est un groupe qui s'est rencontré de façon très forte, avec des vraies relations qui se sont créées en très peu de temps entre des gens qui ont des vécus extrêmement différents et qui ont des âges très différents.
On parle donc du vivant, notre rapport à l'environnement. Il y a donc des regards très différents puisqu'il y a des générations très différentes aussi, comme vous le disiez tout à l'heure.
Tout à fait. Et puis c'est vraiment la question de l'attention à l'autre, en fait. Qu'est-ce qu'on a à se dire ? Qu'est-ce qu'on a à partager ? Et l'organisation de cette performance, qui est une écriture à la fois de plateau, écriture de texte, puisque Fabrice Melchiou prend en charge l'écriture d'un texte à partir des ateliers, et puis une écriture sonore aussi, puisque moi j'organise aussi la possibilité de l'écriture sonore dans cette performance. C'est d'abord une performance qui parle d'écoute, de ce que nous avons à écouter de ce groupe et de ces rencontres.
Parce qu'au sujet de cette performance, vous parlez aussi beaucoup du regard quand vous décrivez un peu ce projet. La construction, elle repose sur la parole, l'écriture, le son. Cette œuvre, la présentation peut reposer sur le regard. C'est une manière de faire travailler nos différents sens aussi, quand on essaye d'aborder la question du vivant.
Bien sûr, la question du regard, c'est celle aussi de comment on se regarde quand on ne se connaît pas, et puis comment très vite... on apprend à se connaître, qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on partage. Et on a pu voir dans la semaine que le groupe a partagé immédiatement des choses très intimes, très personnelles, à partir d'un regard très doux porté les uns sur les autres. Et ça, c'est quand même précieux de pouvoir organiser un temps comme celui-là au sein d'un théâtre.
Alors avant de refermer cet entretien, où est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette création aujourd'hui ? Comment est-ce que ça va se passer pour la gestion de l'espace, par exemple ?
Donc ça se passe au plateau à L'Espale à 18h et vous découvrirez sur scène les 13 personnes qui ont participé à la performance Chouchouter tout son cœur.
Il y a d'autres projets de création qui font du lien social avec des citoyens comme ça que vous travaillez avec Fabrice Melchiou, avec d'autres artistes pour la suite ou en parallèle en ce moment ?
Alors on a fait un cycle de 4 fictions qu'on a écrites dans des théâtres et l'avant-dernière en fait s'est passée justement il y a une quinzaine de jours au Quinconce L'Espale, au Quinconce précisément, puisqu'on a écrit une performance qui s'appelait Dédicace, qui était une performance d'écriture d'une fiction radiophonique qu'on a présentée au plateau. Il s'agissait d'une vraie fausse émission de radio, radio de nuit, et cette émission partait du principe que, le point de départ de l'écriture de cette fiction, c'était de rencontrer des citoyens, des citoyennes du Mans. On a justement rencontré notamment des amateurs de radio, des gens de Radio Alpa, mais aussi d'autres citoyens pour parler de leur rapport à la radio, de leur rapport à l'écoute, de leur rapport à la nuit. Et l'idée de départ de l'écriture de ces fictions, c'est vraiment de se mettre à l'écoute des rencontres sur le territoire, sur un territoire, pour écrire des fictions. Et cette fiction-là, elle sera audible à la radio sur France Culture au mois de juin.
Parce que la radio apporte quelque chose de différent que les autres modes d'expression, que les autres formes de médias, selon vous. Elle qui repose uniquement sur la voix.
Bien sûr, il y a des multiplications de l'écoute à partir de là, en fait.
Merci Sophie Berger, je vous libère puisque vous êtes dans les derniers préparatifs de cette création. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Virginie Bocard, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu peut-être le programme de ce temps fort et peut-être cette journée de la pensée joyeuse? On a présenté ça comme une journée pivot, c'est un peu le terme. Il y a aussi cet événement pour les inspirantes en début d'année, on fait la journée de la pensée joyeuse. Quelle est un peu l'intention de cette journée?
L'intention de cette journée, vous voyez, d'abord au micro, diverses personnes vont se rejoindre. Sophie Berger, créatrice sonore, Lydie Jandy-Panel avec l'exposition qui est présentée depuis le mois d'avril, Hélène Gratté qui a présenté l'équilibriste pour faire découvrir ou redécouvrir le poète Christian Bobin. Et puis pendant que je vous parle, Agnès Bertin est partie avec un groupe de personnes pour une balade multisensorielle. Agnès Bertin, elle est socio-phytologue, accompagnatrice nature, donc... C'est ça l'idée de vivant-vivante, c'est à la fois bien évidemment faire entendre la parole de poètes, accueillir des artistes comme Lydie Jandy-Panel, et puis tout à l'heure elle vous parlera du mix
des oiseaux.
C'est, là je défends un projet qui est pluridisciplinaire et sur l'axe du vivant-vivante, je vous le disais tout à l'heure, c'est même nous autour de la table, comment on fait, comment on dialogue les uns avec les autres, qu'est-ce que nous pouvons partager ici maintenant avec ce magnifique écrin qui est ce théâtre à l'Espal ou au Quinconce. Donc c'est la diversité aussi des personnes que nous pouvons croisons par des invitations qui permettent de se retrouver, et puis la rencontre tout à l'heure à 16h sur la question de l'écoute avec Françoise Thibault, c'est un moment important. Et puis pour aller plus loin, dans 15 jours, on a un pique-nique, le pique-nique vivant avec Emmanuel Perraudin. Vous le savez, il y a un cuisinier qui est associé au projet.
Qui intervient très régulièrement sur les événements des Quinconces.
Qui intervient, et là c'est un projet complètement fou puisque je lui ai dit pour Vivant Vivante, cette édition, est-ce que tu peux nous faire un pique-nique pour 300 personnes? Et il faudrait que ça se passe dans le quartier. Et voilà, il y a un projet absolument dingue qui se met en place avec l'école Bachelard juste à côté, avec un lycée professionnel, avec la section cuisine, les pâtissiers, boulangers, viennoiseries qui sont à fond dans le projet. Et puis des dames qui sont dans des ateliers cuisine au Kaléidoscope et puis à la MJC des quartiers sud. Tout ça pour vous dire qu'à ce projet se joint un créateur, un compositeur, Martin Moulin, avec des musiciens gnawa, et on arrive en fait, puisque souvent il est question des droits culturels, qui fréquentent les établissements, de comment on peut penser des projets avec, situés, bon bref, un peu tout ce qui peut être notre jargon. Mais là, c'est un magnifique projet, ce sera le 9 juin, le jour des élections européennes, pour le coup de se dire que ici, dans une école, on invite des gens à partager un pique-nique, un repas autour du pain, puisque c'est le fondement même de ce pique-nique. C'est comme ça qu'Emmanuel Perraudin l'a pensé. Je trouve ça assez c'est fort, je trouve, politiquement. Et c'est aussi joyeux. C'est des moments de partage. Donc, vivant, vivant.
Donc, créer du lien social autour de la cuisine, de la pratique, de la gastronomie aussi.
En tout cas, créer du lien. Ouais. Créer des rencontres, surtout, pour que nous ne soyons pas les uns les autres dans nos, dans nos silos. Et partager ensemble et partager autour des œuvres et aussi autour d'artistes qui sont généreux et qui souhaitent aussi partager avec nous, puisque cette journée-là, ça va grouiller un peu dans tous les sens dans ce théâtre et j'en suis très heureuse.
C'est un challenge dans la création artistique, la programmation culturelle et artistique, d'aborder notre rapport au vivant, à l'environnement, à son avenir, tout en mettant en avant la pensée joyeuse et l'optimisme, sans tomber dans une forme apocalyptique aussi aujourd'hui.
Je pense que Lydie pourra vous
en
parler.
Oui, absolument, en deuxième partie.
Puisque l'œuvre, le travail de Lydie est vraiment à cet endroit-là.
Oui, cette croisée des chemins.
Alors, la question du challenge, ce que je m'attache à faire et le mieux possible, c'est de pouvoir, en tout cas, inviter dans une programmation la plus large possible large par rapport aux disciplines et par rapport aux esthétiques des artistes et des œuvres qui sont autour de ces questionnements-là. Et sur la question de l'écologie, en tout cas, je la traite dans la programmation, dans sa dimension la plus large possible. Puisqu'effectivement, le spectacle à la vie de Lise Châteauret, mardi soir, avec en plus un bord plateau après avec l'association de la cause freudienne sur un dialogue engagé sur la relation à la vie, à la mort. Oui. Pour moi, quand vivante, tout cet aspect-là, c'est toute cette dimension de notre vie ici, sur Terre et sur cette planète, et comment on fait pour la préserver, pour la choyer, mais aussi comment on fait pour prendre soin les uns les autres et considérer l'autre.
Eh bien, merci beaucoup Virginie Bocard d'avoir répondu à notre invitation. Directrice des Quinconces et l'Espal. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On sera avec l'artiste Lydie Jandy-Panel pour nous parler de son exposition. Avant ça, on écoute Alinan et Neurone Glitter. A tout de suite. De retour dans cette nouvelle partie d'émission, toujours en partenariat avec les Quinconces et l'Espal. Et nous sommes toujours donc en direct de l'Espal, à l'occasion de la journée de la pensée joyeuse et du temps fort vivant-vivante. Et dans cette deuxième partie, il est l'heure d'accueillir une nouvelle artiste. Lydie Jandy-Panel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présentez l'exposition Vivante, donc jusqu'au 23 juin à l'Espal. C'est une exposition dans laquelle vous mettez en avant différentes créations. Vous dites que dans votre travail, le désir de vie prend la forme d'un art manifeste qui milite pour toujours être une lutte contre la mort. C'est intéressant parce qu'on peut découvrir différentes créations, photos mais pas seulement, qui mettent en avant la faune, le monde qui nous entoure. Lydie et Jordi Panel, pour commencer, qu'avez-vous cherché à mettre en avant dans cette nouvelle exposition, ce nouveau travail ?
Lorsque l'on m'a invité à parler du vivant, pour moi ce qui est extrêmement important, c'est d'apporter une forme de réenchantement dans la morosité ambiante. Moi je suis quelqu'un qui suis né dans la forêt et ma forêt disparaît, les oiseaux de ma forêt disparaissent, les animaux également. Voilà, cette exposition elle traite de ça en fait. Mon travail est là pour réenchanter nos désenchantements.
Il faut avoir une double lecture de ce terme vivante, vous dites alive aussi quand vous présentez ce projet, à savoir une volonté militante derrière de se battre pour le monde
bien
qui
sûr,
nous entoure.
Bien sûr, mon travail est éminemment politique, oui. Oui, j'ai beaucoup fait partie d'associations et maintenant je n'ai plus le temps, mais tout ce que je mets de mon combat, je le mets dans mon travail de plasticienne.
Qu'est-ce qu'on peut découvrir justement dans cette exposition ? De quelle manière vous avez essayé de mettre en avant la faune qui nous entoure, le monde, l'environnement qui nous entoure ? On parlait de photos en début d'entretien.
Oui, il y a plusieurs choses. On n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez parlé de photographie. Donc il y a une série de 7 photographies d'animaux, de grands animaux en voie de disparition. Et ils disparaissent doublement puisque ces images, ces photographies sont tirées de films Super 8 malades. Nos archives aujourd'hui disparaissent à cause du syndrome du vinaigre. Donc je suis allée chercher dans des films Super 8 des images qui disparaissent, d'animaux qui disparaissent.
Qu'est-ce que c'est le syndrome du vinaigre ?
C'est une maladie qui attaque les pellicules et qui fait que les images disparaissent, deviennent très roses ou très bleues ou très grises et puis ensuite l'image n'existe plus.
Un rapport avec le temps qui passe donc, notre passé aussi ?
Oui, bien sûr.
S'étiole au fil du temps ?
Il faut qu'on se souvienne de ces animaux qui de plus en plus disparaissent. Et puis, on va dire, une des pièces phares de l'expo qui a été produite par l'ESPAL, qui est toute nouvelle, qui est montrée ici pour la première fois, s'appelle Sentinelle. Et c'est une espèce de totem, une grande sirène, comme je l'ai calqué sur l'objet architectural qui diffuse le son de tous les premiers mercredis du mois. Vous savez, ces sirènes qui s'entraînent en cas de catastrophe ou en cas de guerre. Et cette architecture, elle a été construite comme un grand pylône et elle diffuse avec six haut-parleurs le cri du jet des chênes. Le jet des chênes étant la sentinelle de nos forêts, c'est lui qui prévient d'un intrus dans la forêt. Donc ici, il y a des capteurs à l'entrée de la salle d'exposition et quand le spectateur entre, le cri du jet se met à résonner. Et quand on rentre dans la salle, on voit donc ce grand pylône assez imposant. Et au sol, il y a une quantité de plumes d'oiseaux que j'ai ramassées au sol pendant mes marches, parce que je suis une grande marcheuse, mais ça c'est une autre histoire.
Voilà. On va parler du mix des oiseaux dans quelques instants, mais qu'est-ce que ces animaux représentent pour vous ? Ils occupent une grande place dans vos créations.
Oui, une grande partie. Moi, j'ai une grande empathie pour les animaux. Je suis végane, j'ai été élevée dans la forêt. J'ai toujours vécu entourée d'animaux. Pour moi, nous sommes des animaux aussi. Enfin, voilà, on forme un grand tout sur cette planète et ils sont extrêmement importants. Et dans mon travail, j'aime pas dire le mot utilisé, mais ils sont là pour la métaphore.
Et l'oiseau particulièrement est le garant de cette forêt que vous décrivez tant.
L'exposition est axée autour des oiseaux puisque il y a un fait très clair, c'est que tous les journaux nous en parlent. Ça fait 50 ans. Quand j'ai commencé à travailler autour des oiseaux, j'avais l'âge de leur disparition. On disait en 50 ans, 50% des espèces d'oiseaux ont disparu. Ouais. Et c'est mon âge. Donc en fait, je me rendais compte que le temps de ma vie, on avait tout foutu en l'air. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc oui, il y a énormément de pièces autour des oiseaux. D'où effectivement ce mix des oiseaux que l'on va faire à 17h15.
Vous avez le sentiment qu'entre aujourd'hui et ce que vous disiez il y a quelques instants, dans une partie de votre jeunesse, on se préoccupe davantage de notre environnement, de la faune. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil des années, notre regard, ou du moins une partie des citoyens, a changé ? Sommes-nous sensibilisés différemment ?
J'espère. Enfin, je ne sais pas, quand j'étais enfant, on n'avait pas à se poser ces questions. Enfin, l'Anthropocène, elle est vraiment arrivée il y a un peu plus de 50 ans. Mais j'espère que les gens se sont sensibilisés. En tout cas, moi, dans mon travail d'artiste, la seule mission que je me donne, c'est ça, sensibiliser par la poésie, par les formes, en utilisant des objets très populaires, des cartes postales, des photographies de famille. J'essaye de sensibiliser à ça, en tout cas, c'est ma mission d'artiste.
Vous avez une manière particulière de présenter cette exposition et surtout sa gestion de l'espace pour que le public la découvre différemment. Vous parlez de l'arrivée du public tout à l'heure et des sons qu'on peut découvrir.
Oui, oui. Bah, disons que quand je suis arrivée dans l'espace, il est tellement incroyable, l'espace de l'Espal, j'ai eu directement l'envie de sortir du lieu qui normalement est donné aux artistes plasticiens, qui s'appelle, c'est le foyer, je crois. Et effectivement, j'ai pensé installer mes pièces, je les ai éclatées dans l'espace pour que quand les gens sortent d'un spectacle, il y ait des pièces à voir, il y a tout un parcours à faire.
Et puis un des principaux éléments, c'est qu'on peut découvrir une fresque aussi, de coucher de soleil.
Oui,
un peu à l'étage.
C'est une pièce qui s'appelle La fin des jours, 1835, carte postale de coucher de soleil.
Comment est-ce que vous avez travaillé pour mettre en place cette fresque entière?
Je suis une grande collectionneuse, il y a beaucoup de mes installations qui proviennent de collections, donc j'ai mis quelques années pour les rassembler, et puis avec l'aide d'étudiantes des Beaux-Arts du Mans, on les a accrochées sur le mur du fond, donc on se le prend en sortant d'un spectacle en fait, ça fait un espèce d'effet magique, comme si on était devant un coucher de soleil, mais en fait pour moi il y a toujours ça dans mon travail, il y a un premier aspect qui est très joyeux, qui marche bien avec les enfants quand il y a des visites, mais derrière ça râpe un peu plus, et pour moi les couchers de soleil c'est comme la fin d'un jour, et 1825 est le nombre de cartes postales sur le mur, ça représente 5 ans, 1825 jours c'est 5 ans, et ça se réfère à une chanson de David Bowie qui s'appelle Five Years, dans laquelle il nous parle de la fin du monde. Et il nous questionne sur qu'est-ce que l'on ferait, nous, si on savait que dans 5 ans, c'est la fin du monde. Et c'est une question que j'aime bien me poser et poser aux autres. Parce que si on avait cette échéance comme ça, je pense que le monde serait différent.
Qu'est-ce que représente le coucher de soleil, finalement? Là aussi, il y a un rapport au temps qui passe, la fin d'une journée, la fin d'un cycle, quelque chose de différent qui démarre derrière. Il y a le coucher de soleil, mais il y a aussi le lever de soleil qu'on a sous nos yeux, qui parfois est aussi beau.
Oui, c'est ça. Mais j'aime bien cette idée du coucher de soleil pour la fin d'un jour. Et puis le titre, la fin des jours, c'est emprunté. J'emprunte beaucoup de mes titres à des personnes que j'aime. Et là, notamment, c'était emprunté au chanteur Daniel Darc, La fin des jours.
Et donc, vous présentez le mix des oiseaux aussi en cette journée de la pensée joyeuse. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus?
Oui, c'est un mix que je fais avec Gauthier Tassard, qui est musicien. Donc, tous les deux, nous sommes des collectionneurs. Lui collectionne les vinyles, moi plein de choses. Et on s'est retrouvés sur une collection qui est une collection de 45 tours et de 33 tours, donc des vinyles, de chants d'oiseaux. Et justement, on s'est rendu compte que ces vinyles, aujourd'hui, ils sont là. Et les enregistrements de ces vinyles contiennent des enregistrements d'oiseaux qui ont disparu complètement. Et on aime bien cette idée de faire un mix. Si vous venez nous voir, vous allez voir, on a tout un setup électro. On a l'impression quand on regarde qu'on va balancer du son et qu'on va danser et faire la fête. Mais en fait, on ne va envoyer que des chants d'oiseaux. Et on va comme ça réenchanter l'espace. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, on entend de moins en moins de chants d'oiseaux dans nos forêts et dans nos villes.
Alors toujours sur les oiseaux, il y a une partie intéressante dans votre exposition. Vous parlez de cosmic trash, c'est ça? Des œuvres faites avec des déchets, si je ne me trompe pas?
Cosmic Trash, c'est une pièce qui a été faite pendant le Covid, pendant que je m'ennuyais, où je ne pouvais pas aller en forêt, je ne pouvais pas aller marcher. Donc j'ai trouvé un site qui nous montre la planète vue depuis l'espace, mais avec en direct tous les déchets qui sont autour, les déchets de la conquête spatiale, les déchets des missiles, tous nos satellites qui ne fonctionnent plus, qui tournent comme ça, qui sont en orbite pour toujours, pour l'éternité. Et quand on voit ça, ça ressemble à un gros virus, ça fait plein de points dans le ciel, mais ce ne sont pas des étoiles, c'est les choses proches de nous, ce sont nos déchets cosmiques. Et je suis venue tracer comme des points à relier, comme ces jeux qui sont là pour les enfants, ou du numéro 1 au numéro 100 et quelques, on vient former un dessin, et moi j'ai dessiné des oiseaux dans le ciel.
C'est une manière métaphorique, en prenant les déchets humains, qui prennent beaucoup de place sur notre Terre, d'associer les animaux, de questionner sur leur place aujourd'hui.
Oui, on est tous sur le même bateau, sauf que nous, on est conscients de ça et on est responsables, et les animaux subissent. Donc,
Est-ce que vous avez des projets pour la suite d'exposition, des projets en parallèle?
Oui, bien sûr, je suis en train de monter une énorme exposition qui va se vernir le 8 juin, donc c'est très bientôt. Là, j'ai fait le déplacement au Mans, mais je suis en montage. C'est au Centre d'art Laitanerie à Amélie, à côté de Montargis. Et ça s'appelle Le Long Way, et c'est autour de mes marches, parce que je suis une marcheuse. Et j'ai traversé les États-Unis à pied, toujours en allant nulle part. Nulle part étant un petit bourg en Oklahoma.
Est-ce qu'on peut suivre vos projets, votre actualité quelque part, si on souhaite?
Oui, sur les réseaux sociaux, avec mon nom, Lydie Jandy-Panel. Puis il y a aussi un site qui est à mon nom.
Eh bien, merci beaucoup, Lydie Jandy-Panel, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Vous présentez à l'ESPAL l'exposition Vivante jusqu'au 23 juin et on vous retrouve aujourd'hui pour le mix des oiseaux. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. Je vous propose Soumti et Path of the Wanderer. A tout de suite sur notre antenne.
Thank you.
Nous sommes de retour à l'antenne, toujours en direct de l'Espal, à l'occasion de la journée de la pensée joyeuse et du temps fort vivant-vivante. Un programme en partenariat avec les Quinconces et l'Espal. Et dans cette dernière partie d'émission, nous sommes avec Julie Lecomte-Sino, directrice adjointe des Quinconces et l'Espal. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également avec Dr Françoise Thibault, médecin en soins palliatifs et présidente d'honneur de l'association Jalmalve. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, on va donc parler de ce temps d'échange aujourd'hui à 16h avec l'association Jalmalve, justement. Et nous sommes aussi avec Hélène Gratté, comédienne et chanteuse. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être pour commencer, Julie Lecomte-Sino, expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi avoir souhaité créer un temps d'échange et quels sont un peu les enjeux de ce temps d'échange qui sont d'un des principaux points de cette journée de la pensée joyeuse aujourd'hui.
Alors en fait, c'est une journée qu'on co-construit avec les associations, qui militent, qui s'engagent sur les thèmes qui sont traités dans le temps fort vivant. Mmh. Et les thèmes sont à chaque fois différents d'une saison à l'autre. Et cette saison, on avait plusieurs spectacles programmés qui parlaient de la question de la vie, mais aussi de la mort et de la question des cycles de vie. Et puis, on a fait la connaissance des membres de l'association Jalmalve du Mans l'été dernier. Pas l'été d'avant. Et puis, on a échangé avec eux, on s'est vus à l'occasion de plusieurs rendez-vous et il nous est apparu très intéressant d'inviter les membres de l'association ou des membres de l'association avec des artistes sur la rencontre de la pensée joyeuse, qui est un temps où on souhaite faire dialoguer des artistes, donc là qui sont invités comme Hélène Gratté et Élie Châteauret pour la rencontre de tout à l'heure. Et puis en échangeant, on a à l'unanimité, les membres de l'association Jalmalve nous ont dit mais ce serait vraiment très intéressant que le docteur Françoise Thibault soit à cette rencontre et participe à la rencontre. Elle a accepté l'invitation malgré un emploi du temps extrêmement contraint. Et du coup, on va vivre cette rencontre tout à l'heure à 16h avec ces trois invités.
Justement, Françoise Thibault, peut-être revenir sur les missions premières de Jalmalve pour présenter un petit peu ça aux gens qui nous écoutent.
Alors Jalmalve, ça veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et c'est une association qui a été créée il y a 30-35 ans par un médecin oncologue de Grenoble. Et le but, c'était de faire passer dans la société civile, donc en dehors de l'hôpital, dans la société civile, les messages de l'accompagnement, des soins palliatifs, pour qu'il y ait une diffusion de cette réflexion sur l'accompagnement en fin de vie. Et donc, j'ai co-créé cette association en 1995, quelque chose comme ça, et avec des bénévoles qui étaient au départ très issus du milieu hospitalier, avec des anciennes infirmières, cadres de santé, également médecins. Donc, on était un peu partie prenante de tous les côtés. Et puis, progressivement, on a admis des bénévoles qui sont venus d'autres secteurs, et donc de la société civile, et qui ont repris le flambeau sur la Sarthe. Donc on est un petit peu en retrait en tant que professionnel de santé. Et l'idée, c'était de porter le projet de l'accompagnement et des soins palliatifs, du soulagement de la douleur, ce qui était très, très important. Et puis, moi, je viens également de l'hôpital, mais également d'un moment où il y avait le sida, et où le sida atteignait une population jeune, toxicomane, donc délaissée, mis de côté, et en même temps avec un pronostic qui était la mort dans les années 80-90, puisque les trithérapies efficaces, c'est 96, hein, je le rappelle. Donc on a actuellement des gens âgés qui sont avec un traitement antiviral qui marche et qui arrive à 70 ans, j'en ai un actuellement dans mes patients. Donc tout ça pour dire que à cette époque-là, donc il y avait cette lutte, ce désir d'accompagner le mieux les patients qui étaient en fin de vie dans des pathologies très différentes, le cancer, le sida, mais en même temps qui ont été très démunis pour la prise en charge de la douleur notamment. On écoutait peu les gens, il y avait vraiment un milieu hospitalier qui n'entendait pas ce qu'on pouvait entendre. Et donc il y a eu tous ces mouvements-là. Plus l'association AIDS, plus d'autres, la Ligue contre le cancer, plus des médecins qui ont réfléchi à ces soins palliatifs, ont fait avancer de façon concomitante la société française, mais également le monde médical, vers la prise en charge de la douleur, l'accompagnement jusqu'au bout de la vie.
Quand vous parlez de l'accompagnement, ça passe donc aussi par un dialogue, des éléments de langage en particulier pour les personnes en fin de vie. C'est de cette manière-là aussi qu'on les accompagne ?
Alors, on les a accompagnés déjà en faisant bouger le monde médical, la loi sur... À l'époque, je me souviens, on parlait de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Bon, maintenant, on doit la vérité au patient qui vient, ou la personne qui vient vous voir pour un diagnostic. On lui parle à lui et on ne parle pas à sa famille. Alors qu'il y a 30 ans, on parlait d'abord à la famille et avant de parler à la personne. Donc, ce qui entretenait des situations complètement folles. Et puis, en même temps, on a des solutions pour la douleur qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Moi, je me souviens, 30 ans, à la limite, de faire des euthanasies il y a 30 ans, ça paraissait sauver le patient en termes de douleur, parce qu'on n'avait vraiment rien, on avait peu de choses, à la fois théoriques et également pharmacologiques. Les produits antalgiques ont vraiment fait... sont apparus vraiment de façon efficace il y a 30 ans. Hein. Avant, la morphine, on la connaissait, mais on la pipettait dans des ampoules. Enfin, c'était vraiment gardé par les pharmaciens. On avait très peu de forme orale, alors qu'actuellement, on a vraiment des solutions médicamenteuses et on a fait beaucoup de progrès pour la connaissance de la douleur, de son fonctionnement, de son mécanisme et de ce qu'on peut proposer aux gens.
Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une intervention que vous faites aujourd'hui qui évidemment résonne intimement avec l'actualité. Est-ce que c'est une position sensible pour vous, pour Jalmal, à titre personnel, puisqu'on rappelle que d'ici quelques jours, quelques heures, un texte, un projet de loi pour élargir la légalisation à l'euthanasie entrera au Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette position est délicate? Comment est-ce que vous vous positionnez?
Alors, c'est forcément, ça interroge forcément la Jalmal, parce que sont à Jalmal beaucoup de bénévoles qui viennent d'horizons très différents sur le plan culturel, sur le plan personnel également, et qu'ils ont forcément des avis forcément un peu différents les uns des autres par rapport à la loi sur la fin de vie. C'est normal, c'est un reflet de la société civile. Je pense qu'on est tous d'accord, par contre, sur le fait qu'il faut soulager la douleur, qu'on doit accompagner au mieux les personnes que l'on a en face, et les personnes que l'on va accompagner, elles sont aussi différentes que nous, même plus différentes que nous. Et en fait, c'est cette diversité qu'il faut essayer d'accompagner. Après, en ayant des garde-fous sur les lois, mais quand même, on a des gens très, très différents. On a des personnes de culture musulmane, de culture catholique, d'autres qui sont athées, qui ont forcément des points de vue sur leur fin de vie différents. Et nous, on est là pour les accompagner le mieux possible jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'eux souhaitent. Après, ça sera... qui va être compliqué, c'est effectivement comment va se régler la loi par rapport à cette idée d'euthanasie ou pas.
Hélène Gratté, avant de parler un petit peu de votre participation à ce temps d'échange aujourd'hui, puisque vous intervenez, ça sera intéressant de mettre ça donc en parallèle avec notre invité du jour. Vous présentiez cette semaine le spectacle L'équilibriste avec Christian Bobin, Laurence Grassin. C'était au Théâtre des Quinconces les 22 et 23 mai. Alors rapidement, donc un jour sur une route de campagne, au cours d'une promenade, un homme croise un autre homme doté d'une tête de cheval. Un dialogue s'engage alors, mêlant dans cette pièce l'humour, le surréaliste, le tout accompagné au piano par Laurence Grassin. Déjà, Hélène Gratté, quelle est l'intention de ce spectacle que vous avez essayé de mettre en avant?
L'intention, c'est de partager l'écriture de Christian Bobin. Mmh. Voilà, donc c'est la première chose, la plus importante pour nous. Moi, je vois mon métier de comédienne comme un métier de passeur, d'une rive à l'autre, on espère, dans la conscience des spectateurs, et d'essayer de rejoindre le travail de l'écriture de Christian Bobin. Et ce texte est un petit peu différent des autres textes, parce qu'il a un ton qu'on ne connaît pas forcément dans le reste de l'œuvre de Christian Bobin. C'est une soixantaine d'ouvrages. Ce sont des ouvrages de pensée, d'observation. Oui. Et celui-ci nous apparaissait un petit peu plus adressé, plus oral, et se prétend davantage à une forme théâtrale. Voilà.
Justement, on parlait d'humour, de surréaliste, d'absurde, je ne sais pas peut-être. Comment est-ce que ce spectacle il évolue physiquement, esthétiquement, face au public?
L'humour qu'a la vie, hein, c'est pas quelque chose où on se tient les côtes non plus, mais l'étrangeté, c'est l'étrangeté de la présence, de ce qu'est la présence. Donc cette rencontre, on sait pas vraiment ce que c'est, et il faut accepter de pas pouvoir forcément le nommer. Comment le spectacle évolue? Et ben, comme tous les autres spectacles, j'ai envie de dire, en fonction de l'écoute du public, de la réception, et puis en fonction de l'état dans lequel on est aussi nous. Évidemment, ce spectacle, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que ce spectacle a été créé en présence de Christian Bobin, avec lui à ses côtés. C'était pas un spectacle d'hommage, et d'une certaine manière, mais d'hommage au sens noble, hein. On n'est pas juste dans le souvenir bête et souffreteux, mais aujourd'hui, c'est une façon de rester en lien avec le poète à travers son écriture.
Et il y a une place importante donc, de la musique et du piano.
Absolument, comme dans l'œuvre de Christian Bobin.
Ouais.
C'est la musique et peut-être un... Christian Bobin admirait énormément les musiciens. Il en a beaucoup parlé, des musiciens de jazz. Dans son dernier livre, Le Murmure, alors qu'il est justement à l'hôpital en soins palliatifs, il écoute en boucle Sokolov. Donc pour lui, c'est un degré de l'indicible, peut-être supérieur, la musique qui nous rassemble.
Et vous intervenez aujourd'hui à cette occasion, un temps d'échange avec Françoise Thibault. Quel est l'intérêt et l'enjeu pour vous en tant que comédienne, chanteuse, d'intervenir dans un échange avec le public sur ce sujet-là en particulier ?
Comme je vous le disais, être comédienne, être chanteuse, c'est un métier de passage,
oui.
de passer quelque chose. Le théâtre, on sait aussi que c'est l'endroit où on fait revenir les morts, où on peut convoquer des présences. Et puis, l'écriture de Christian Bobin et le lien intime que j'ai avec cette écriture. Christian Bobin est un poète, donc un vrai poète, c'est quelqu'un qui écoute le monde dans son ensemble. Chaque infinitésimale partie du monde est écoutée et restituée. Voilà, donc ma présence certainement est liée à ça. C'est peut-être pour moi et pour certains lecteurs le plus vivant des poètes.
Françoise Thibault, c'est enrichissant, c'est important et essentiel d'intervenir sur vos missions, de présenter Jeanne Malve et différentes de vos missions, à côté d'artistes, d'autrices, de comédiennes, de chanteuses, pour avoir l'aspect artistique, culturel, avoir un regard en parallèle.
Alors pour moi, c'est très nouveau, mais je trouve ça enrichissant et du coup, ça fait rentrer la vie dans ce moment particulier de l'approche de la mort, et je trouve ça très intéressant en tout cas.
Julie Lecomte-Sineau, avant de refermer cette émission, est-ce qu'on peut redonner peut-être des informations pratiques ? Est-ce que c'est un événement ouvert au public ? Si on souhaite se rendre, c'est dans quelques minutes, hein, il nous reste une heure, c'est à 16h. Comment est-ce que ça va se dérouler ?
Alors, toutes les propositions de la Pensée Joyeuse, c'est des propositions qui sont ouvertes, ouais. Ouvertes à toutes et à tous et gratuites, essentiellement. Donc, la rencontre entre Hélène Gratté, Françoise Thibault, Célie Châteauré à 16h tout à l'heure est gratuite à ceux et tout le monde est le bienvenu, à ceci près qu'on est dans une petite salle qui est le studio de danse de l'Espal et qu'on a une petite jauge. Donc il y a une cinquantaine de places, ça va être une rencontre en intimité, mais tout le monde est le bienvenu. Et s'ensuit ensuite tout un programme avec une proposition avec Lydie Jandipanel que vous avez eue tout à l'heure, mais aussi la création de Fabrice Melchiot, puis... l'exposition à découvrir, il y a encore une balade tout à l'heure. Enfin voilà, les gens sont vraiment invités à picorer, se balader et découvrir au fil de cette programmation de la journée.
Eh bien, Julie Lecomte-Sineau, Françoise Thibault, Hélène Gratté, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Donc rendez-vous à 16h pour un temps d'échange avec l'association Jeanne Malve et des artistes et des autrices. Quelques secondes, une petite respiration musicale, une virgule peut-être, mon cher Romain Linon, et il va être l'heure de conclure cette émission. Pour finir cette émission, je tiens évidemment à remercier les Quinconces et l'Espal pour leur confiance. Merci à Virginie Bocard et Emmanuel Travers pour leur apport dans la préparation de cette émission. Julie Lecomte-Sineau, merci également. Je remercie l'ensemble de mes invités d'avoir pris de leur temps pour répondre à notre invitation. Un grand merci à Romain Linan pour la réalisation technique de cette émission. Et évidemment, c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est Super Phoenix, comme tous les samedis sur notre antenne avec Yves et Phil. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur le 107.3.